Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Aligre FM 93.1. Dans La vie est un roman, nous sommes mardi matin, il est 11h et nous sommes en direct. Et ce matin, nous allons parler de trois choses. La première étant une exposition de 40 ans de peinture par Thierry Covey, qui nous a envoyé pour annoncer son exposition trois petits fichiers son que nous allons écouter. Ensuite, nous allons avoir un interview Zoom parce que l'auteur, celui qui a fait le livre traite des écrits complets de Hans Bellmer que tout le monde connaît à cause de sa poupée, des dessins autour d'une poupée et de certaines couvertures de livres de Georges Bataille par exemple. Et donc Stéphane Massonnet qui a fait réalisé cet ouvrage des écrits complets de Bellmer habite à Bruxelles et nous avons eu un échange par Zoom que nous allons entendre ensuite avec Stéphane Massonnet. Et en deuxième partie de l'émission, nous allons parler d'un très beau livre qui vient de sortir avec des écrits inédits de Kurt Schwitters, Homme par-dessus bord, prose 1931-1947. Un livre magnifique publié aux éditions 33 morceaux. Et donc maintenant, nous allons entendre Thierry Covey qui va exposer, dont le vernissage est à la fin de la semaine, 4 rue Martel. C'est à côté de Château d'Eau, vers la gare de l'Est, dans le 10e arrondissement. Je vous mettrai à l'Est. Ça s'appelle Espace Houdin. Mais je vous mettrai tous les renseignements sur la page podcast. À toi Thierry, raconte-nous tout.
Bonjour, je m'appelle Thierry Covey, je suis peintre et je présente une rétrospective de mon travail de 1978 à 2023 au fonds de dotation L'Enseigne des Houdins, rue Martel, aux 4 rue Martel dans le 10e arrondissement de Paris. Cette rétrospective se présente sous forme de 3 accrochages. Le premier avait pour thème l'altérité, le deuxième la peinture et le réel, et le troisième aura pour thème la mystique. La première partie portait sur l'altérité au sens large, à la fois le rapport aux politiques, le rapport du « je » et du « tu » décrit par le philosophe Martin Buber dans son livre intitulé « Je et tu ». Il présentait également des travaux à deux mains réalisés avec d'autres artistes comme Anne van der Linden, Stéphane Dussel, Jim Purcell, Jean-Louis Magnier ou Denis Lucas. La deuxième partie de la rétrospective s'intitule « Peinture et réel » et s'articule principalement autour de mes tableaux vivants des années 80 et de la mythologie grecque. Karine Saporta, chorégraphe et photographe, présentera pendant l'expo une série de performances à partir de mes tableaux sur la mythologie grecque. La troisième partie de la rétrospective sera en avril et portera sur le thème de la mystique. Vous trouverez les dates et les horaires sur le site enseignedeshoudins.com. L'exposition durera du 2 au 25 mars. Le vernissage aura lieu le jeudi 2 mars, de 18h à 21h. Je vais maintenant vous lire un texte de 1984 sur mon travail du tableau vivant. Il s'intitule « Du tableau naît le réel ». Puis je vous lirai un extrait d'une conférence que j'ai faite pour une exposition à Corbas, avec un bestiaire qui résume assez bien mon travail. Voilà, je vous dis à bientôt au vernissage. Au revoir. À la lumière de mon expérience des tableaux vivants de ces dernières années, il m'apparaît de plus en plus que le tableau, entre parenthèses, je ne parle pas du tableau vivant, la réalité même du tableau repose sur une absence que serait, métaphoriquement, la tâche aveugle de l'œil de Georges Bataille. Son existence n'est pas une existence en soi. Il n'y a pas de lieu du tableau. Son lieu est n'importe où, mais n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde, comme l'écrivait Baudelaire. Le lieu du tableau est hors du monde. Le tableau n'existe, en imposant une proposition de vision, que parce qu'il la dégage de tout autre. Ce sera cela et rien d'autre, pourrait dire le peintre en montrant son tableau. Le tableau n'existe qu'issu du chaos. Il extrait une image de l'infini de ce qui peut s'offrir à l'œil et interpelle celui-ci par sa fonction de piège à regard. Il fait apparaître la réalité visuelle qui l'entoure dans l'instant comme secondaire, arbitraire même, en créant un centre privilégié du regard. Cette réalité visuelle qui l'entoure, mouvante à l'instar de la matière, prend alors fonction de reste de la vision. Ce reste, né dans le même temps que le tableau, ce reste, lui, a un lieu. C'est le monde. Ce reste est-il le réel? Disons que c'est la réalité. Mais peut-être le tableau, en la faisant naître comme son reste, tend-il à la transformer en ce qu'elle ne peut être que dans l'impossible, le réel. Le tableau vivant. Il faut définir le tableau vivant par rapport à la problématique de l'héliocentrisme. Là où le tableau propose un centre autour duquel la réalité se situe, le tableau vivant, en incluant autre chose que lui-même et qui soit du monde, déplace ce centre. Il ne le déplace pas pour autant dans la réalité, mais crée un double centre. Il est à l'ellipse ce que le tableau est au cercle. Le tableau vivant a un lieu. Est-il pour autant au monde? Ce lieu est à la fois du monde et hors du monde. Ce lieu est lié au corps. Qu'est-ce qu'un tableau vivant sans les corps réels? Si l'expression « tableau vivant » a un sens, on peut s'interroger sur son contraire, « tableau mort », qui, s'il n'est pas un pléonasme, semble chargé d'un curieux non-sens. Me fascine, à l'intérieur d'un même tableau, la guerre, je ne trouve pas d'autre mot, la guerre que se livrent le corps réel et le corps représenté. Ces deux états du corps semblent être l'expression d'une trinité incomplète et dont le troisième terme serait le cadavre. Le corps vivant, le corps représenté, le cadavre. Il y a un rapport logique entre le corps vivant et le corps mort, mais il y en a un plus subtil et plus terrible encore entre le corps représenté et le cadavre. L'immobilité absolue, comme celle du cadavre, du corps représenté, n'est pas celle de la mort, mais de la vie, d'une vie figée pour l'éternité. Le corps représenté est un cadavre qui ne pourrit pas. Qu'est-ce qu'un tableau vivant sans corps réel? C'est un tableau, mais un tableau où s'est livré cette guerre et qui reste chargé d'absence comme un puzzle dont il manque une pièce. La pièce manquante du puzzle. Jusqu'à n'importe où, premier tableau vivant où le corps n'est pas seulement présenté mais représenté, c'était le corps réel qui avait charge d'incarner ce reste du tableau décrit plus haut. D'opposer à la représentation son irréprésentabilité. Mais n'y a-t-il pas dans cette focalisation sur le corps comme seule forme du réel une réduction fétichiste de ce corps alors qu'il échappe justement à l'image? Cette focalisation n'est-elle pas l'origine de ce que l'on peut voir comme limite dans le symbolisme? Il n'est pas nécessaire que le corps soit présent, réel ou image, pour qu'il y ait du corps. Après n'importe où, ce n'est plus seulement la forme du corps qui est corps, ce peut être le ciel, une montagne, une forme quelconque. La forme, au bout du compte, est indifférente. La forme molle et arbitraire d'une pièce de puzzle n'est-elle pas alors l'expression souveraine de cette indifférence?
Aligre FM 93.1.
Conférence de Corbas. Je n'avais pas écrit depuis longtemps sur mon travail, et quand j'ai su que j'avais cette conférence à faire, j'y ai vu l'opportunité de jeter un regard rétrospectif et de tenter de dégager des éléments communs à l'ensemble de mon travail. Je me suis demandé immédiatement comment je pourrais mettre en perspective les séries récentes avec celles du passé. J'ai commencé à tracer sur une feuille des flèches entre les titres des différentes séries qui s'égrènent depuis 1978 et j'ai été pris d'un tournis qui s'est terminé par un éclat de rire. Voici la page afin que vous puissiez en juger. Imaginez donc une page couverte de flèches dans tous les sens. Belle illustration de « Au commencement était le chaos des Grecs ». Alors j'ai essayé de voir quel grand thème pouvait bien traverser 40 ans de travail. Je me doutais bien qu'il s'en trouverait car j'avais remarqué déjà par le passé de grandes boucles qui reliaient de loin en loin à travers le temps des travaux différents. Au fil du temps et dans une relecture transversale apparurent les thèmes suivants que je vais classer comme un abécédaire. A. Comme altérité, amour, alchimie. B. Comme bête. C. Comme corps, créolité, chapeau. D. Comme dualisme, double. E. Comme érotisme. F. Comme feu. G. Comme grimace. L. Comme lumière. M. Comme monstre, mythe, mort, masque, morceau. N. Comme nature. O. Comme or, œil. P. Comme politique, plan qui s'enroule. R. Comme rituel, référence, répétition, réel, révélation. S. Comme sacré, sarcophage, symbole. T. Comme temps, transparence. V. Comme victime, visage.
Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 et nous sommes sur Zoom et je parle avec Stéphane Massonnet qui est à Bruxelles, moi je suis à Paris. Et donc il a établi une édition et il l'a présenté d'un livre avec des écrits de Hans Bellmer qui s'appelle « Le corps et l'anagramme » et qui vient de paraître à l'atelier contemporain. Bonjour, Monsieur Massonnet, de quoi s'agit-il ?
Ah, bonjour, Yves. Ben voilà, en fait, il s'agit d'un projet qui est né d'une volonté assez ancienne, en fait, de l'éditeur à vouloir rassembler ses textes. Alors, peut-être on va d'abord commencer par discuter de Hans Bellmer et de savoir qui est Hans Bellmer. Alors, je pense que c'est probablement pas un inconnu parce que c'est quand même quelqu'un qu'on a beaucoup vu, je pense, sur les couvertures de livres de Georges Bataille dans différentes éditions dans les années 80-90. Et donc c'est quand même un peintre, un sculpteur, un photographe également. Et par contre, ce qu'on connaît beaucoup moins bien, c'est son écriture. C'est aussi un écrivain. Et c'est un peu la raison de ce livre. Donc, la tentation, évidemment, aurait été de faire, surtout chez un éditeur comme l'Atelier Contemporain, de faire un livre d'artiste, un livre où on donnerait la part belle aux images. Or ici, c'était plutôt de renverser la démarche, pas pour oublier l'image, mais plutôt pour vraiment montrer en quoi Bellmer est un écrivain à part entière. C'est-à-dire, ce n'est pas un peintre qui écrit sur sa peinture, comme beaucoup de peintres. Il y a aussi des peintres qui sont des écrivains à part entière. Et lui, parmi cette catégorie-là, je dirais, d'artistes. Alors, ça, c'était vraiment le but. C'était de rassembler l'ensemble des écrits. Alors, ces écrits ont été déjà rassemblés dans un volume qui est paru quelques mois après sa mort en 75, la revue Oblique. Sur laquelle Bernard Noël avait travaillé. Et on a repris le texte de Bernard Noël comme préface, parce que justement, dans cette préface-là, il introduit bien la dimension du corps, du texte et du dessin. Et en montrant comment, finalement, c'est un travail très subtil chez Bellmer, mais c'est aussi un travail qui vraiment donne ou devrait rendre, en quelque sorte, la place à Bellmer écrivain. Alors évidemment, il est connu dans les milieux surréalistes. Il a également publié un livre dans les années 50 qui s'appelle L'anatomie de l'image, où il essaie de travailler sur l'irrationnel de l'image. Et donc, tous ces textes ont été en fait repris dans ce volume. On a complété cela également avec différentes lettres, des lettres à Éluard, à Breton, à ses amis surréalistes, mais aussi à des éditeurs pour montrer le travail et la démarche de Bellemare dans le milieu d'écrivains. Alors, très rapidement, si on fait un peu le tour, j'irais, de qui sont les gens qui entourent Bellemare, évidemment, il a commencé dans les années 30, c'était donc il était à la base de formation, disons, d'ingénieur. Il faisait du dessin industriel d'ingénieur. Son père était ingénieur, mais très vite, il a rencontré Georges Gorce, les dadaïstes de Berlin, et très vite, il a commencé à travailler avec eux. Mais dès l'arrivée de Hitler au pouvoir, il s'est lancé dans ce projet un peu fou. Il a arrêté son métier. Il disait, voilà, pour l'Allemagne, je ne veux plus faire un travail utile qui va construire cette nouvelle Allemagne qu'il rejette entièrement. Et il s'est lancé dans la construction de la poupée. Alors ça, c'est évidemment un des grands thèmes connus chez Bellemare, et ça a tout de suite attiré l'attention des surréalistes. Il a été très vite accueilli par eux. Il a travaillé avec Paul Éluard, avec Georges Huguenet. On a publié ça dans les revues surréalistes. Et alors, ce n'est qu'à ce moment-là que très progressivement, il a commencé à publier, mais de manière très, je dirais, très minimaliste en quelque sorte. Il faisait traduire ses textes, il écrivait en allemand à l'époque, et les traductions, c'était parfois des itérations de 17, 18 traductions. Il rendait les traducteurs fous, en quelque sorte, tellement il était exigeant, parce qu'il ne voulait pas que son écriture soit surréalisante, en quelque sorte. Il ne voulait pas que les surréalistes fassent passer ça à sa sauce, à leur sauce, en quelque sorte. Donc, il tenait vraiment. Et alors là, on se rend compte qu'effectivement, il a une écriture assez froide, ingénieure, très précise, très rigoureuse, et en même temps très délirant, parce qu'il cherche à expliquer l'irrationnel, comment se forment les images. Et alors très vite évidemment, avec la déclaration de la guerre, il s'est retrouvé dans le camp des mines avec Max Ernst, puisqu'il était de nationalité allemande. En 38, sa femme décède de tuberculose, et lui quitte l'Allemagne. Il dit, voilà, je ne veux plus rien avoir à faire avec l'Allemagne. Il s'installe en France, et avec la déclaration de la guerre, un Allemand en Allemagne, en France, pardon, il passe évidemment un moment qui est très difficile. Mais très vite, il partira vers le sud, où il va rencontrer des écrivains comme Joël Bousquet. Il va rencontrer d'autres surréalistes. Il vit quand même dans une certaine solitude, mais il s'intéresse à Sade, à Lautréamont, à Lewis Carroll, à Bataille, et ce sont ces gens-là qu'il veut illustrer. Et donc, en quelque sorte, tout son travail de l'écriture, à partir de la poupée jusqu'à cette anatomie de l'image, ça va être un travail justement pour vraiment expliquer cette logique, expliquer comment se fait que des images irrationnelles ne sont pas justement de l'irrationnel, mais il y a quand même une logique bien, bien précise. N'oublions pas qu'il est ingénieur, et donc ce dessin très précis, il veut expliquer avec cette précision-là dans l'ordre du langage et des mots. Et donc il va analyser le corps, il va s'intéresser par exemple aux anagrammes, montrer que par exemple lorsqu'on a une douleur aux dents et qu'on va chez le dentiste et qu'on va attraper une piqûre pour se faire anesthésier, ben on va par exemple se pincer la main ou se pincer la cuisse. Donc on va transférer la douleur dans une autre partie du corps. Et là, dans cette logique-là, il voit une sorte de logique du corps qu'il va transcrire d'une part dans son dessin, mais qu'il va théoriquement essayer d'analyser. Et donc ça, ce sera un de ces projets majeurs. C'est cette anatomie de l'image qui va lui coûter des années d'écriture. Il va travailler ça avec Nora Mitriani, avec Bousquet. C'est un projet qu'il avait déjà en 38-39, mais qu'il publiera finalement en 57. Donc quand même pas mal d'années qui vont s'écouler. Et c'était vraiment un travail d'écriture, c'est-à-dire que les illustrations pour l'anatomie de l'image, il va les réaliser après. Alors, on se rend compte évidemment, il y a toute une constellation autour des auteurs que j'ai mentionnés. Ils s'intéressent, ils rencontrent très très rapidement Gisèle Pracinos, il va s'approcher d'Henri Michaux, de Duchamp. Il va aussi faire une excursion un peu du côté de la Belgique en travaillant beaucoup avec Magritte. Donc j'ai retranscrit quelques lettres à Magritte, mais aussi Cobra. Donc, les artistes comme Pierre Alechinski qui vont le rencontrer via Yves Bonnefoy vont le publier dans la revue Cobra. Donc, Bellemare est un de ces artistes qui participent à l'aventure Cobra. Et c'est cette aventure qui est celle de l'art expérimental, c'est probablement ça qui caractérise le mieux l'écriture de Bellemare, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui essaie de poursuivre une expérience à travers son écriture. Et il y a vraiment une dimension de poésie expérimentale qui est à l'œuvre dans son écriture et qui se lit très clairement dans la manière dont il approche ses sujets, mais aussi avec les écrivains avec lesquels il n'a cessé de travailler. Donc voilà, ça c'est un peu le projet et le trajet qu'on a essayé de rassembler en rassemblant l'ensemble de ces textes. Je pense qu'on a couvert. Alors j'ai également mis un appareil critique, une bibliographie qui explique où ces textes sont parus, dans quel contexte. J'ai essayé aussi de montrer un peu le travail éditorial derrière, hein, comment dans quelle revue ces textes ont été publiés, dans quel contexte, pour vraiment montrer la genèse de l'écriture de Bellemare. Donc voilà.
Si on parle à quelqu'un qui ne sait pas de quoi on parle, je pense à Paul Armangette, par exemple, là. On a cette espèce de contenu magique autour du désir d'une petite fille. On a quelque chose qui est assez exceptionnel, qui se rencontre très peu souvent. La poupée a quand même une âme. Il y a quelque chose d'animiste et il y a aussi, évidemment, quelque chose de Chirico il y a quelque chose qui flotte. Il y a quand même. Si on parle à des moins de 30 ans, il y a un objet qui n'a rien de kitsch, qui tient quand même sur ce qui est très fragile et qui tient quand même, qui a une certaine qualité. C'est justement dû à c'est une qualité de sublimation absolument exceptionnelle à la fois dans les textes et dans les dessins.
Oui, tout à fait. Alors ça, effectivement, je pense que là, c'est un aspect qui est très fascinant et qui a fasciné, par exemple, Joé Bousquet, où dans leur travail, en fait, on peut parler de la petite fille. Alors évidemment, chez Bellemare, il y a tout cet univers de l'enfance. Il y a l'univers. Alors, il y a un texte, par exemple, qui est très beau, qui est le texte sur le père, où on voit que le père écrase ses enfants qui veulent jouer. Qui... Alors, on m'a communiqué entre-temps, donc après que j'ai fait ce livre, on m'a communiqué, par exemple, des lettres cryptées. Donc, il échangeait beaucoup avec son frère. Ils avaient créé un alphabet tout à fait visuel et ils s'échangeaient leurs mots ou leurs messages en langage crypté pour que le père ne puisse pas découvrir ce qu'il se disait. Alors évidemment, c'était des jeux. Mais un des moments aussi, c'est lorsque les parents de Bellemare ont déménagé et sa mère a trouvé une boîte de ses jouets d'enfant et l'a envoyée à Bellemare. Et lorsqu'il a trouvé ça, il a voulu l'intégrer dans la poupée. C'est le fameux panorama. Donc, il y a tout un travail sur les objets optiques, sur le regard de cette poupée. La poupée n'est pas qu'une poupée, c'est aussi une réminiscence des souvenirs d'enfance. C'est un univers, je mentionnais Lewis Carroll, qui est aussi une des références. Il y a de ça aussi, c'est Alice qui grandit, c'est cet univers vraiment magique de l'enfance, et où on voit effectivement, c'est aussi un univers bien entendu érotique, mais dans lequel Bellemare, si on regarde bien, par exemple, les illustrations qu'il a faites pour l'histoire de l'œil, il y a aussi des jeux d'inversion. Ce sont des femmes avec des sexes d'hommes. Donc, il y a quelque chose aussi de très fluide. On n'est pas dans un univers, je dirais, de pervers, de narcissisme. On est dans un univers, effectivement, d'une fragilité où les identités se construisent. Et comme je le rappelais aussi, il y a ce moment, cette poupée se construit au moment où le nazisme apparaît, et c'est un moyen de finalement de rentrer dans la part maudite, de refuser le monde utilitaire, rationnel d'un régime, du régime nazi qui se met en place, et c'est une fuite de ce monde. Donc c'est clairement aussi la fuite du monde adulte, du travail, pour retourner dans l'univers de l'enfance, de la rêverie et de cette fragilité perdue. Ça c'est évident.
Il y a quelque chose qui est c'est juste un détail, mais qui est très significatif. Il parle de billes, donc quand on joue aux billes, et si on pense à un calot en verre, sur la transparence, il y a cette espèce de référence à l'enfance. Justement, c'est pas du tout l'histoire de l'œil de bataille ou quelque chose comme ça. C'est pas.
Non.
Il y a quelque chose qui, dans votre livre, donc dans le contenu, dans la tenue du livre, dans la maquette du rapport du noir au blanc, il y a quelque chose dans l'idée de la sphère, dans l'idée de. Que je vois et qui existait par moment dans le travail de Paul Armangette avec les petites filles. Et c'est quelque chose de très spécifique et très délicat et qui est très difficile à tenir et qui est présent chez Belmer, auquel je n'avais pas pensé a priori en le voyant justement ramené à bataille.
Alors,
des choses comme ça un peu lourdes quand même.
Oui, effectivement.
En imprécation
alors,
du catholicisme retourné.
Alors oui, effectivement. Alors l'habit, effectivement, il y a cet univers de l'enfance, il y a les sucreries, il y a les... Et alors l'habit joue un rôle particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs versions de la poupée. Il y a eu une première poupée qui était une poupée, je dirais, avec un torse en une pièce. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il n'arrivait pas à avoir... la mobilité, la flexibilité suffisante pour atteindre l'expression qu'il voulait. Et alors, il a découvert ces poupées articulées, je pense c'est dans un musée à Berlin, qui venait en fait de l'école de Dürer, où on utilisait justement cette jointure à boule pour donner une articulation dans le tronc. Alors on a ça maintenant dans nos jouets pour donner un côté articulé. Et donc il a beaucoup réfléchi justement à cette jointure à boule. Il a regardé le mathématicien Cardan, ses recherches sur comment fait-on des pièces rotatives pour construire une seconde poupée qui, elle, était articulée à partir de ça. Alors, il a réfléchi aussi au rapport entre cette boule et les toupies. Alors, on retrouve aussi beaucoup les toupies dans son art plastique, mais c'est une réflexion fondamentale pour arriver à une vision d'un corps qui est un corps de bois, mais qui puisse devenir extrêmement flexible, articulable, comme un anagramme, qu'on puisse le recomposer selon les lois du désir. Ça, c'est un peu cette logique que Belmer cherche. Et alors évidemment, il se tourne vers les objets de son enfance. Je ne peux qu'imaginer qu'il y avait une bille dans cette boîte que sa mère lui a apportée pour, en lui ramenant ses jouets d'enfance. Ça le replongeait dans cet univers, mais dans lequel il est allé puiser les solutions même aux problèmes techniques, ingénieriales, si je puis dire, qu'il a rencontrés dans cette première construction de sa poupée. Donc...
Oui, il y a un côté où il est du côté de l'enfant. Je pense aussi à l'homme sans qualité de Musine. C'est sur ce côté à la fois ingénieur et vouloir être inutile. Il y a quelque chose comme ça de sec. Et puis, je pense à Fanny Alexandre d'Igmar Bergman, mais c'est sur l'enfant. C'est tellement rare les choses qui... On voit un père menaçant quasiment un personnage biblique ou tragédie grecque, et puis deux enfants qui abordent des codes pour s'en sortir, et cet aspect-là est quand même présent. C'est-à-dire que l'aspect ludique qui transparaît dans le texte n'est pas tout à fait évident quand on feuillette un livre où il y a des reproductions, des dessins sur la poupée ou des dessins de belle-mère. C'est pas cet aspect-là qu'on voit, et l'apport de votre livre, c'est d'alléger un peu la nacelle, c'est de jeter du lest.
Oui.
Un rapport plus léger à la chose après avoir lu votre ouvrage.
Merci. C'est mission accomplie alors. Mais effectivement, c'est bien ça qu'on voulait atteindre. C'est c'est justement ne plus, disons, détourner le regard pour montrer l'écrivain, parce que ce travail d'écriture est vraiment, je pense, apporte quelque chose. Et alors, lorsqu'on retourne et qu'on revoit Belle-Mère à partir de là, on se rend compte que, au fond, c'est aussi André Breton, même Mandiargues, André-Pierre de Mandiargues, qui disait mais Belle-Mère est avant tout un écrivain. C'est un poète, c'est quelqu'un dont le travail d'écriture a été un peu mis de côté. Et ici, on voulait redonner cette importance parce qu'on pense qu'elle montre d'une part un sort de théoricien et quelqu'un qui a vraiment réfléchi à son écriture, à sa manière. Et son écriture est vraiment très proche de cette précision du dessin qui, à la fois, est totalement délirante, puisqu'on est avec des corps qui sont recomposés dans des... quand même dans des recompositions érotiques, on est au cœur du désir, mais en même temps avec cette précision d'ingénieur, cette froideur presque, qui fait que en même temps c'est fascinant et en même temps il y a quelque chose qui est une sorte de déconstruction des lois de l'irrationnel, des lois du désir et qui sont à l'œuvre. Et ici on voit le théoricien en quelque sorte, Belle-Mère, qui développe ça de manière très claire à travers ses écrits. Donc voilà.
Mais ça joue Eros plutôt que Thanatos. Oui, c'est toujours un danger de cliché, enfin, ce surréalisme. Être littéraire et littéral, et un peu étouffant, vous le savez, en tant que Belge.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Au premier degré des images, il faut essayer de les libérer de cette emprise. Et ce côté un peu compulsif, obsessionnel, un peu abrupt de Belle-Mère, elle lui donne une génialité qui est quand même extrêmement intrigante et intéressante.
Voilà, ben, j'espère que ce livre, disons, ouvrira l'univers de Belle-Mère à de nouveaux lecteurs. Et
qu'il intéressera des gens qui ne le connaissaient pas et qui iront voir par curiosité ce que c'est. Donc, c'est une image de la poupée du désir de l'enfance. Et donc, je mettrai toutes les références nécessaires sur la page du podcast pour après que l'émission ait eu lieu. Merci de votre participation.
Merci à vous.
Au revoir et à la prochaine.
Merci. Au revoir.
Aligre FM 93.1.
Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Der Bebe, der Bebe, Fünsbe, der Bebe, Fünsbe, Be, Fünsbe, Te, Fünsbe, Te, Zeu, Pegif, Wie, Der Sinder, Iem, Pittuto, Te, Jüka, Rinzeke de Bibi hinskermü, Ziu hinze ziu rinskermü, Racke de Bibi, Rum tup to, Ziu hinze ziu hinskermü, Ziu hinze ziu rinskermü, Racke de Bibi, Racke de Bibi, Fims bewe te zeu, U te te we be fims, O B, 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 B. O, C, 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 C. O, Rinsakata, B, B. O, M-ta, M-ta. O, Torgel, pa 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 pa, oka, 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 Lanka Torgel, pi 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 pi, zuka, 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 Lanka Torgel, rum, rum, Lanka Torgel, ziulen trill, num, dum, trill, Lanka Torgel, rum, dum, to, Lanka Torgel, ziulen trill, num, dum, trill, Lanka Torgel, pa 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 pa, oka, 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 Lanka Torgel, pipi pipi pipi, tsuka, 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 Lanka Torgel, rum, rum. Rung, lang, ke, torgue. Ti ou, i ou, ti ou, a ou, ti ou, i ou, ti ou, a. Ti ou, i ou, ti ou, a ou, ti ou, i ou, ti ou, o.
Et donc c'était un extrait de la Ursonate de Kurzweil dont nous allons parler maintenant. Nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Mais juste avant, pour ne pas l'oublier, en fin d'émission, je vais remercier les techniciens qui sont de l'autre côté de la vitre. Amazir Hamidan Guestre, Axel Aubry, Enrico Mastro Giovanni, Pierre Leborin Kumba Falcast, merci à vous d'assurer la technique. Et maintenant, nous allons parler de un livre récent qui vient de paraître aux éditions 33 Morceaux, des écrits de Kurzweil, Homme par-dessus bord, des proses qui ont été écrites entre 1931 et 1947. Et je suis donc là avec la traductrice qui a écrit une postface que je vous recommande chaudement, que j'ai trouvé formidable et qui bénéficie d'une mise en page absolument luxueuse et vraiment géniale, qui est très très agréable à lire. Donc bonjour Sabine, ma chère.
Bonjour Yves Tanré.
Et donc c'est à vous, racontez-nous ce qu'il y a dans ce Kurzweil, Homme par-dessus bord. D'abord, qui était en fait Kurzweil?
Kurzweil, c'est un homme très grand, mais je n'ai pas pu trouver vraiment la mensuration, mais j'imagine qu'il faisait à peu près 1m90. Enfin, il dépasse beaucoup les autres gens sur les photos. Il n'a pas vécu très longtemps, parce qu'il est mort à 60 ans. Et puis, il a fait des déplacements volontiers et d'autres pas très volontiers. Enfin, il a été à la fois forcé de s'exiler, entre autres dans un endroit d'abord où il avait choisi aussi d'avoir un endroit de villégiature, on peut presque dire, sur une île qui s'appelle Hiatøya, qui est à côté de Molde, en Norvège. Molde, c'est une petite ville. C'est plutôt dans le sud, ça. Mais alors que, justement, il allait régulièrement en Norvège, son fils Ernst était aussi souvent en Norvège, et surtout avec la femme entre deux, qui s'appelle Helma Schwitters, qui est la cousine de Kurt Schwitters. voilà, on rentre tout de suite dans une sorte de roman familial, mais qui va après aussi un petit peu déborder sur...
Est-ce qu'on pourrait donner des dates pour que les gens situent? Parce que c'est très important, parce qu'il vit pendant l'avènement du nazisme, en fait.
Il est né en 1887, à Hanovre, une ville où il a défendu pas mal une place à l'art au moment dans les années entre 20 et 30. Et il est mort à Ambleside, dans le Lake District, en Angleterre. C'est un endroit assez paisible. Il était dans un hôpital le 8 janvier 1948. Et voilà, il s'est exilé, mais en disant qu'il n'avait pas spécialement envie de le faire, mais qu'il accompagnait son fils, qui lui avait une activité politique plus prononcée. Enfin, Ernst militait dans la jeunesse socialiste, qui entre-temps était interdite. Enfin, les nazis, quand ils arrivent au pouvoir en 1930, les camps de concentration, on ne le sait pas forcément, mais ils les construisent pour les ennemis politiques d'abord, les socialistes et les communistes. Enfin, d'abord c'est les communistes et ensuite les socialistes. Tout ça, ça va assez vite. Donc déjà, je crois, en 1934, le Parti socialiste est interdit. Et donc, Hanovre, enfin, et puis aussi Leipzig, enfin, un peu cette partie-là de l'Allemagne est aussi traditionnellement plutôt social-démocrate ou plutôt à gauche. Et d'ailleurs Schwitters, qui se dit non politique, il prend quand même sa carte au Parti socialiste le 1er juillet 1932. Donc dans un moment où ça monte déjà. Voilà. Et il part en fait avec son fils en Norvège pour l'aider à s'installer, parce qu'il n'a que 17 ans, ce Ernst. Et après, Helma, donc la mère et la femme de Kurt Schwitters, elle envoie beaucoup d'œuvres, parce qu'elle semblait avoir eu envie de pousser la famille à aller ailleurs qu'en Allemagne, plutôt. Mais ils habitent aussi dans une maison à Hanovre, qui est une maison familiale de Schwitters, où il est arrivé à 6 ans et où, se mariant en 1915, souvent quand les gens se marient, ils vont ailleurs, mais lui, en fait, avec sa femme de maintenant et qui est aussi sa cousine, il aménage avec elle dans la maison familiale. Il change peut-être d'étage, ça je ne sais pas. En tout cas, il y a les parents en bas. Il y a Schwitters et Helma. Et puis bientôt, la famille. Il y a un premier enfant qui s'appelle Gerd, qui est un fils qui ne vit que 9 jours en 1916. Et puis après, Ernst Schwitters, donc le désormais seul fils, mais deuxième, né en novembre, je crois le 16 novembre 1918, donc au moment de la révolution aussi pas très bien connue de novembre. Et il y a un petit peu tout le monde, ouais. C'est la République des conseils de marins et d'ouvriers, qui sont aussi actifs à Norve. Mais tout ça, ça passe assez vite. Et puis, il y a une reprise en main. Enfin, le vrai déclin, c'est rapide, c'est après l'assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht. Mais tout ça, ça passe assez vite, et c'est un moment où la famille Schwitters est vraiment en train de pouponner Ernst. Donc, j'ai pas trouvé spécialement des remarques là-dessus, mais j'ai pas non plus cherché partout. Enfin, je me suis d'abord concentrée surtout à essayer de traduire ces textes. Ces textes m'ont été proposés, ce projet m'a été proposé par Vincent Weber et Paul Rieland des éditions 33 morceaux. Je suis de germanophone, j'ai vécu en Allemagne jusqu'à 20 ans. Je suis venue en France pour un an, je suis restée, j'écris en français. J'ai traduit avant ça un peu des poètes, parce que je suis plutôt dans la poésie avec ce que j'écris. Et puis j'avais traduit un livre, plusieurs livres d'une artiste aussi d'ailleurs, qui est rome, autrichienne, qui s'appelle Chaya Stoika. Voilà, et donc ça c'est le Schwitters, donc c'est aussi elle avait été dans les camps. Par nos ancêtres les nazis. Et puis Kurt Schwitters, lui justement n'a pas été dans les camps, mais il a été il n'était pas directement sur la liste pour y aller, mais ça aurait pu, disons que sa vie est devenue petit à petit assez invivable. Mais Helma, elle voulait partir, finalement, c'est Schwitters lui-même qui part avec son fils pour l'installer près d'Oslo. Et elle envoie beaucoup d'œuvres. Et je ne sais pas comment elle a fait pour les sortir. Il paraît qu'il y a quand même des gens qui viennent visiter pour retirer des œuvres, pour les détruire ou pour les mettre. Enfin, les nazis semblaient être assez au courant de ce qu'il y avait. Donc elle tient un peu la position et heureusement qu'elle a envoyé énormément de choses, parce que quand les nazis arrivent à leur tour en Norvège en 1940, en avril, ils doivent partir encore. Kurt Schwitters, son fils Ernst et la femme de Ernst à ce moment-là, qui s'appelle Esther Goudal, et ils montent. Il y a une deuxième femme après, j'espère que je dis pas des bêtises. Bon, en tout cas, la première femme ils montent à trois vers le nord de la Norvège. Et d'ailleurs, Schwitters n'a pas de passeport aussi, parce qu'il n'a plus de papier depuis 38, donc ça aussi, c'est un peu compliqué. Et par quelque chose qu'il raconte dans un des textes que j'ai traduit, qui s'appelle... il y a plusieurs choses qui... Il y a un texte qui s'appelle « Fuite en Norvège », où il dit, par exemple, qu'il s'en va, et que juste avant... son fils, donc, mais qu'il n'a pas du tout l'intention de s'exiler, il va juste pour l'aider à s'installer, parce qu'il est un peu jeune, et que Ernst, justement, qui a déjà une activité photographique, ce qui va être un peu son métier, enfin pas seulement un peu, mais totalement son métier, à part qu'il s'occupe aussi beaucoup du travail de son père, avec des tensions qu'on peut aussi imaginer, Ernst, il prend des photos de l'atelier, comme dit Kurt Schwitters, et qui est son atelier Merzbau, voilà, qui ensuite
qui est une
a
œuvre
été...
en fait, qui est une œuvre, qui est une sculpture faite dans une maison et qui traverse les étages.
C'est ça, c'est-à-dire c'est le lieu de travail qui devient le travail, qui se transforme, qui à la fois dévore et poursuit le travail qui devient... c'est un peu comme un corps, quoi. C'est-à-dire, ça part peut-être d'une cellule, et puis ensuite, il y a plein de choses qui se trouvent à l'intérieur, à l'extérieur. Quand on est dedans, on ne voit pas ce qu'il y a dehors. Quand on est dehors, on ne voit pas ce qu'il y a dedans, etc. Et tout ça, ça part... En flammes et aussi en gravats lors d'une attaque avec des bombes britanniques, la Grande-Bretagne étant à ce moment-là le lieu de refuge et d'exil de Kurt Schwitters et de Ernst. Voilà.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc, je voulais lire votre déclaration d'intention. Vous appelez votre postface Post-Crasse. Alors, vous écrivez une petite ligne qui s'appelle Post-Crasse de la traductrice. Avec les doigts, mot par mot, en le maudissant, en marchant, en me corrigeant, en m'attendrissant, ne pouvant le corriger, en tapant sur un clavier avec trois dictionnaires en même temps qui ne disaient pas ce qu'il faut, en l'ignorant, en l'imaginant, en admirant ces femmes, en les frôlant. Voilà, donc c'était pour revenir à votre formidable préface. Mais le temps passe vite. Alors peut-être qu'on pourrait parler, donc c'est à 90% des textes inédits, de la nature des textes. Il y a plusieurs textes qui ont des approches assez différentes du phénomène d'écriture. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont ces textes qui sont à 90% inédits, donc quels sont ces textes de Kurt Schwitters?
Ce sont des textes... déjà, parler un peu de la sélection et puis de des textes qui ont été faits. Enfin, moi, quand je suis arrivée dans ce projet, il était déjà engagé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Konrad Kaniuk qui avait aidé Paul Ruelland et Vincent Weber, donc les deux éditeurs, à choisir des textes parce qu'eux-mêmes ne parlent pas allemand. Avaient très envie de faire un livre sur Schwitters. Donc ce sont des textes il y a des textes qu'on a enlevés, il y en a d'autres qu'on a rajoutés, il y a d'ailleurs aussi une pièce de théâtre dans le livre parce que Schwitters a énormément écrit dans les années 70. Il y a eu une édition longuement préparée par quelqu'un qui s'appelle Friedhelm Lach qui est sorti en Allemagne. Et les textes, il y a un livre de manifeste, un livre de poésie, deux livres de prose et enfin tome et un tome de pièces de théâtre. Et j'en oublie un parce qu'il y en a cinq en tout. Mais disons que déjà dans la prose, enfin il y a énormément de prose dont personne n'a jamais entendu parler parce que Schwitters lui-même ne semble pas les avoir, pour ce que j'ai pu voir, ne semble pas les avoir promus, alors qu'il est très très actif à être son propre agent, impresario, à faire aussi beaucoup de travail pour les autres. Enfin, il est toujours en train de remuer ciel et terre pour se faire entendre et puis aussi pour faire entendre d'autres. Mais les textes qu'il présente ce qu'on appelle aujourd'hui la performance, dans des lieux différents, mais beaucoup chez lui aussi. Ce sont un peu toujours les mêmes, il y a une sorte de hit parade. Et la Ursonate, dont on a entendu un extrait au début, qui était composée, mis en voix à partir d'un poème affiche de Raoul Hausmann, et qu'ils ont parfois aussi performé ensemble, ce que j'ai pu savoir grâce à une amie de Kurt Schwitters et artiste, qui s'appelle Kate Steinitz, qui a écrit finalement sur lui, alors que lui disait à plusieurs personnes, enfin, il y a seul Kurt Schwitters qui peut parler de Kurt Schwitters, mais voilà, heureusement, il y a plusieurs personnes qui enfreignent la règle. Et là, j'ai perdu un peu le fil.
Mais... Il avait une habitude extrêmement bizarre et impressionnante. Il réécrivait ses textes de mémoire, si j'ai bien compris dans votre livre.
Oui. Bah, déjà, il réécrivait ses textes. Et ça, Kate Steinitz aussi, elle parle de ça. Elle dit que, voilà, à la fois, il écrit. Et ensuite... Helma, la sainte du lieu. Après, il va y avoir une autre femme aussi, comme ça, très très importante, qui l'a énormément aidé, et sans qui, voilà, on ne le connaîtrait pas comme on le connaît aujourd'hui, même si on est aussi un peu en train de l'oublier. Mais enfin, bon, voilà, il y a une sorte de va-et-vient entre... Pardon, j'ai tapé...
Vous avez peur qu'il disparaisse, mais je ne pense pas qu'il va disparaître.
Moi, je n'ai pas spécialement peur, non. Mais je me rends compte que... Oui, enfin voilà, de la fluctuation de l'intérêt qu'un artiste mort depuis quand même un bon moment, quoi, peut susciter ou pas, comment il est transmis dans les écoles d'art, comment il n'est plus transmis par des personnes qui le connaissent bien, je veux dire, du côté des professeurs, mais voilà, ça se sent aussi des... Enfin, c'est très intéressant, voilà, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, et qu'est-ce qu'on retrouve, et qu'est-ce qu'on redéterre. Lui-même, d'ailleurs, voulait à un moment donné aller chercher dans les gravats du Merzbau pour reconstituer peut-être quelque chose, mais ça c'est aussi parce qu'on lui a proposé une bourse. Enfin, voilà, on travaille aussi un peu comme on peut. Enfin, il est constamment aussi en train de survivre. Et puis de vivre aussi. Mais voilà, j'ai retrouvé le fil. Donc, il retravaille ses textes, ça, de toute façon. Mais quand il arrive, par exemple, après la Norvège, en Angleterre, où il est d'abord... Il passe quand même plus d'un an dans des camps, des camps d'hiver d'abord. Et puis ensuite, il est dans un camp assez longtemps qui s'appelle Hutchinson Camp, qui est sur l'île de Isle of Man, et où il est avec beaucoup d'artistes. Puis il semble avoir une belle vie. Enfin, lui, il est assez content. Il écrit à Helma, à ce moment-là, qui est toujours sa femme, que, bah, qu'il a tout ce qu'il faut, qu'ils boivent du vin, qu'ils vont au cinéma, qu'il y a du théâtre. Lui, il a un atelier. Il lui manque la liberté. Bon, c'est quand même aussi quelque chose. Voilà, et c'est là où, en partie, il réécrit certaines choses de mémoire. D'ailleurs, dans le livre, il y a, par exemple, deux versions d'un texte. Qui s'appelle Madame Conseil avec la choucroute, hein, ou Madame Conseil mort avec la choucroute. Voilà, dans lequel on peut voir, par exemple, deux états d'un même sujet. Hein, voilà. Ces textes sont... Enfin, il y a des contes, il y a des... Il y a des sortes de paraboles, c'est des textes de genre qui considère lui-même mineur. Il y a aussi certains textes que j'ai traduits qui sont en anglais. Parce qu'en fait, quand il arrive en Angleterre, il a vraiment très envie... il s'attache beaucoup. Enfin, il était déjà beaucoup attaché à la Norvège, dont il parlait aussi la langue, et où d'ailleurs après son fils va vivre le reste de sa vie. Et lui, il est très attaché à l'Angleterre. Il y rencontre aussi une femme qui s'appelle Wanty, qui a aussi fait beaucoup de choses pour l'aider dans les dernières années de sa vie, en tant que compagne et ben, un soutien voilà, total, comme avait été aussi Helma. D'ailleurs, voilà, il y a plein de choses aussi dans le, voilà, que j'ai creusé un peu autour de sa relation avec les femmes, parce que dans les textes, parfois, une sur-standardisant des rôles féminins m'a un peu heurté, mon cœur féministe, et en même temps, tout est très, 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 très cliché, mais bon, les femmes, encore un peu plus, on va dire, c'est un peu mince, alors qu'il a des relations très importantes d'amitié, d'amour, avec plein de femmes, et voilà, la plupart de ces femmes se mettent quand même aussi largement à son service, comme moi-même je l'ai fait aussi, parce que en fait, ce travail de traduction a été très long, très riche, très intéressant aussi dans le rapport avec les éditeurs. Moi, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas, comme par exemple le passé simple. J'ai jamais écrit en passé simple, mais je sors toujours ça parce que c'est la grande découverte de ma vie grâce à Coach Vitas en français. Voilà, mais je voulais vous lire, c'est vrai que le temps passe vite et...
C'est 4 minutes.
Je voulais vous lire un petit texte quand même, un petit extrait. un texte de 1942 qui s'appelle « Le trou d'air carré ». Soudain, il y eut un trou carré dans l'air. Dans ce trou se trouvait une famille d'enseignants. Il jouait à faire du vélo, un jeu bizarre. Il y avait toujours deux membres de la famille assis sur un vélo, l'un des deux tourné vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Selon ou à mesure que l'un ou l'autre pédalait plus fort, le vélo en question se déplaçait vers l'avant ou sur le côté. Le but du jeu étant de se rendre mutuellement méconnaissable par la destruction totale. On appelait cela la prolifération invasive. Au moment approprié, les parties entraient en collision. Cela veut dire que les cyclistes à l'arrière esquivaient sur le côté, tandis que ceux de l'avant se jetaient l'un sur l'autre de toute leur force. Cela fonctionnait bien pendant un certain temps, mais ensuite les deux membres de l'équipe à l'avant étaient morts et tombés. Très rapidement, ceux de l'arrière sautaient à l'avant et reprenaient la partie morte de ceux de l'avant. Par les collisions répétées, les morts revenaient à la vie et reprenaient l'activité d'esquive des membres de l'équipe anciennement à l'arrière, ce qui, bien sûr, faisait mourir ces derniers. Alors le jeu reprenait, en inversant les rôles depuis les débuts, et se poursuivit en toute éternité, comme toujours les jeux. Soudain, le trou d'air se referma et la famille d'enseignants en train de jouer disparut et fut perdue pour la partie.
Merci. Donc, nous passons l'antenne à Cause Commune. Merci pour tout et puis à la semaine prochaine.
Écoutez Aligre FM 93.1.